Chapitre 5. Trois ans plus tard, en 1904, André Léry, qui était vaguement et d'une façon intermittente dans les ambassades, venait de demander, après beaucoup d'hésitation, et d'obtenir un poste d'environ 2 années à Constantinople. S'il avait hésité, c'est parce que d'abord, toute position officielle représente une chaîne et qu'il était jaloux de rester libre. C'est aussi parce que, 2 ans plus loin de son pays, cela lui semblait bien plus long que jadis, au temps où presque toute la vie était en avant de sa route. C'est enfin et surtout parce qu'il avait peur d'être désenchanté par la Turquie nouvelle. Il s'était décidé pourtant, et un jour de mars, par un temps sombre hivernal, un paquebot l'avait déposé sur le quai de la ville autrefois tant aimée. À Constantinople, l'hiver n'en finit plus. Le vent de la mer Noire soufflait ce jour-là furieux et glacé, chassant des flocons de neige. Dans l'abject faubourg cosmopolite où les paquebots accostent, et qui est là comme pour conseiller aux nouveaux arrivants de vite repartir, les rues étaient des cloaques de boue gluante où pataugeaient des levantins sordides et des chiens galeux. Et André Léry, le cœur serré, l'imagination morte, prit place comme un condamné dans le fiacre qui le conduisit par des montées à peine possibles vers le plus banal des hôtels dit « Palace ». Péra, où sa situation l'obligeait d'habiter cette fois, est ce lamentable pastiche de ville européenne qu'un bras de mer et quelques siècles aussi séparent du grand Stamboul des mosquées et du rêve. Et c'est là qu'il dut, malgré son envie de fuir, se résigner à prendre un logis. Dans le quartier le moins prétentieux, il se percha très haut, non seulement pour s'éloigner davantage en altitude au moins des élégantes perrottes qui sévissaient en bas, mais aussi pour jouir d'une vue immense, apercevoir de toutes ses fenêtres la Corne d'Or avec la silhouette de Stamboul érigée sur le ciel et à l'horizon la ligne sombre des cyprès, les grands cimetières où dort depuis plus de 20 ans sous une dalle brisée l'obscure circassienne qui fut l'amie de sa jeunesse. Le costume des femmes turques n'était plus le même qu'à son premier séjour. C'est là une des choses qui l'avait frappé d'abord. Au lieu du voile blanc d'autrefois, qui laissait voir les deux yeux et qu'elles appelaient yashmak, au lieu du long kamaï de couleur claire qu'elles appelaient feradje, maintenant, elle portait le tchartchaf, une sorte de domino presque toujours noir, avec un petit voile légalement noir retombant sur le visage et cachant tout, même les yeux. Il est vrai, elle le relevait parfois, ce petit voile, et montrait aux passants le val entier de leur figure, ce qui semblait à André Léry une subversive innovation. À part cela, c'étaient toujours les mêmes fantômes que l'on coudoie partout, mais avec qui la moindre communication est interdite et que l'on ne doit pas même regarder. Les mêmes cloîtrés dont on ne peut rien savoir, les inconnaissables, les inexistantes, pourrait-on dire. D'ailleurs, le charme et le mystère de la Turquie. André Léry, jadis, par une suite de hasards favorables, impossible à rencontrer 2 fois dans une existence, avait pu, avec la témérité d'un enfant qui ignore le danger, s'approcher de l'une d'elles, si près qu'il lui avait laissé un morceau de son âme accroché. Mais cette fois, renouveler l'aventure, il n'y songeait même point, pour 1000 raisons, et les regardait passer comme on regarde les ombres ou les nuages. Le vent de la mer Noire, pendant les premières semaines, continua de souffler tout le temps et la pluie froide de tomber, ou bien la neige, et des gens vinrent l'inviter à des dîners, à des soirées dans des cercles. Alors il sentit que ce monde-là, cette vie-là, non seulement lui rendrait vide et agité son nouveau séjour en Orient, mais risquait aussi de gâter à jamais ses impressions d'autrefois, peut-être même d'embrumer l'image de la pauvre petite endormie. Depuis qu'il était à Constantinople, ses souvenirs, d'heure en heure, s'effaçaient davantage, sombraient sous la banalité ambiante. Il lui paraissait que ces gens de son entourage les profanaient chaque jour, piétinaient dessus. Mais il décida de s'en aller. Perdre son poste à l'ambassade, bien entendu, lui était secondaire. Il s'en irait. Depuis l'arrivée, depuis tantôt 15 jours, 1000 choses quelconques venaient d'absorber à ce point son loisir qu'il n'avait même pas pu passer les ponts de la Corne d'Or pour aller jusqu'à Istanbul. Cette grande ville qu'il apercevait du haut de son logis, le plus souvent noyée dans les brouillards persistants de l'hiver, restait pour lui presque aussi lointaine et irréelle qu'avant son retour en Turquie. Bon, il s'en irait, c'était bien résolu. Le temps de faire un pèlerinage là-bas, sous les cyprès, à la tombe de Nedjibé, et laissant tout, il reprendrait le chemin de France. Par respect pour le cher passé, par déférence religieuse pour elle, il repartirait avant le plus complet des enchantements. Le jour où il put mettre enfin le pied à Istanbul était un des plus désespérément glacés et obscurs de toute l'année, bien que ce fût un jour d'avril. De l'autre côté de l'eau, aussitôt le pont franchi, dès qu'il se trouva dans l'ombre de la grande mosquée du Seuil, il se sentit redevenir un autre lui-même, un André Léry qui serait resté mort pendant des années et à qui aurait été rendu tout à coup la conscience et la jeunesse. Seul, libre, ignoré de tous dans ses fouilles, il connaissait les moindres détails des tours de cette ville, comme se les rappelant d'une existence précédente. Des mots turcs oubliés lui revenaient à la mémoire. Dans sa tête, des phrases s'assemblaient. Il était de nouveau quelqu'un d'ici, vraiment quelqu'un d'Istanbul. Tout d'abord, il éprouva la gêne, presque le ridicule d'être coiffé d'un chapeau. Moins par enfantillage que par crainte d'éveiller l'attention de quelques gardiens dans les cimetières, il acheta un fez, qui fut suivant le coutume, soigneusement repassé et conformé à sa tête dans une des 1000 petites boutiques de la rue. Il acheta un chapelet pour tenir à la main comme un bon oriental. Et pris de hâte maintenant, d'extrême impatience d'arriver à cette tombe, il sauta dans une voiture en disant au cocher « Edirne, Kabusuma Getur, conduis-moi à la porte d'Andrinople. » C'était loin, très loin, cette porte d'Andrinople, percée dans la grande muraille byzantine, au bout de quartiers que l'on abandonne, de rues qui se meurent d'immobilité et de silence. Il lui fallait traverser presque tout Istanbul, et on commença par monter des rampes où les chevaux glissaient. D'abord défilèrent ces quartiers grouillants de monde, pleins de crises et de marchandages, qui avoisine le bazar et que les touristes fréquentent. Puis vinrent, un peu désert ce jour-là, sous la brise glacée, ces sortes de steppes qui occupent le plateau du centre et dont on aperçoit des minarets de tous côtés et des dômes. Et après, ce furent les avenues bordées de tombes, de kiosques funéraires, d'exquises fontaines, les avenues de jadis où rien n'avait changé. L'une après l'autre, les grandes mosquées passèrent avec leurs amas de coupoles palmant grises dans le ciel encore hivernal, avec leurs vastes enclos pleins de morts, et leurs places bordées de petits cafés du vieux temps où les rêveurs s'assemblent après la prière. C'était l'heure où les médecins appelaient au troisième office du jour. On entendait leurs voix tomber de là-haut, des frêles galeries aériennes qui voisinaient avec les nuages froids et sombres. Stamboul existait donc encore. Elle retrouvait-elle qu'autrefois, André Léry, tout frissonnant d'une indicible et délicieuse angoisse, se sentait replongé peu à peu dans sa propre jeunesse. De plus en plus, il se sentait quelqu'un qui revivait après des années d'oubli et de non-être. Et c'était elle, la petite circassienne au corps, aujourd'hui anéantie dans la terre, qui avait gardé le pouvoir de jeter un enchantement sur ce pays, elle qui était cause de tout et qui, à cette heure, triomphait. À mesure qu'approchait cette porte d'Andrinople, qui ne donne que sur le monde infini des cimetières, la rue se faisait encore plus tranquille, entre des vieilles maisonnettes grillées et des vieux murs croulants. À cause de ce vent de la mer Noire, personne n'était assis devant les humbles petits cafés presque en ruine. Mais les gens de ce quartier, les rares qui passaient, avec des airs gelés, portaient encore la longue robe et le turban d'autrefois. Une tristesse d'universel mort ce jour-là émanait des choses terrestres, descendait du ciel obscur, sortait de partout, une tristesse insoutenable, une tristesse à pleurer. Arrivée enfin sous l'épaisse voûte brisée de cette porte de ville, André, par prudence, congédia sa voiture et sortit seul dans la campagne, autant dire dans l'immense royaume des tombes abandonnées et des cyprès centenaires. À droite et à gauche, tout le long de cette muraille colossale, dont les donjons à moitié éboulés s'éloignaient à perte de vue, rien que des tombes, des cimetières sans fin qui s'enveloppaient de solitude et de gisaient de silence. Assuré que le cocher était reparti, qu'on ne le suivrait pas pour l'espionner, André partit à droite et commença de descendre vers Ayoub, marchant sous ses grands cyprès aux ramures blanches comme les ossements secs, au feuillage presque noir. Les pierres tombales en Turquie sont des espèces de bornes, coiffées de turbans ou de fleurs, qui de loin prennent vaguement l'aspect humain, qui ont l'air d'avoir une tête et des épaules. Au premier temps, elles se tiennent debout, bien droites, mais les siècles, les tremblements de terre, les pluies viennent les déraciner. Elles s'inclinent alors en tous sens, s'appuient les unes contre les autres comme des mourantes, finissent par tomber sur l'herbe où elles restent couchées. Et ces très anciens cimetières, où André passait, avaient le morne désarroi des champs de bataille au lendemain de la défaite. Presque personne en vue aujourd'hui le long de cette muraille, dans ce vaste pays des morts. Faisait trop froid. Un berger avec ses chèvres, une bande de chiens errants, deux ou trois vieilles mendiantes attendant quelques cortèges funèbres pour voir l'aumône. Rien de plus, aucun regard à craindre. Mais les tombes qui étaient par milliers simulaient presque des foules de petits êtres grisâtres, penchés, défaillants. Et les corbeaux qui sautillaient sur l'herbe commençait à jeter des cris dans le vent d'hiver. André se dirigeait au moyen d'alignements pris par lui autrefois pour retrouver la demeure de celle qu'il avait appelée Medjé, parmi tant d'autres demeures presque pareilles qui d'un horizon à l'autre couvraient ce désert. C'était bien dans ce petit groupe là-bas. Il reconnaissait l'attitude et la forme des cyprès. Et c'était bien celle-ci, malgré son air d'avoir 100 ans, c'était bien celle-ci dont les stèles déracinées gisaient maintenant sur le sol. Combien la destruction avait marché vite depuis la dernière fois qu'il était venu, depuis à peine 5 années. Même ces humbles pierres, le temps n'avait pas voulu les laisser à la pauvre petite morte, tellement enfoncée déjà dans le néant, que sans doute par un être en ce pays n'en gardait le souvenir. Mais dans sa mémoire à lui seul, mais rien que là, persistait encore la jeune image. Et quand il serait mort, aucun reflet ne resterait nulle part de ce que fut sa beauté, aucune trace au monde de ce que fut son âme anxieuse et candide. Sur la stèle, tombée dans l'herbe, personne ne viendrait lire son nom, son vrai nom qui d'ailleurs n'évoquerait plus rien. Souvent, autrefois, il s'était senti profanateur pour avoir livré, quoique sous un nom d'invention, un peu d'elle-même à des milliers d'indifférents, dans un livre trop intime qui jamais n'aurait dû paraître. Aujourd'hui, au contraire, il était heureux d'avoir fait ainsi à cause de cette pitié éveillée pour elle et qui continuerait peut-être de s'éveiller çà et là pendant quelques années encore, au fond d'âmes inconnues. Même il regrettait de n'avoir pas dit comment elle s'appelait, car alors ses pitiés, lui semblait-il, seraient venues plus directement au cher petit fantôme. Et puis, qui sait, en passant devant la stèle couchée, quelqu'une de ses sœurs de Turquie, lisant ce nom-là, aurait pu s'arrêter, pensive. Sur les cimetières immenses, la lumière baissait hâtivement ce soir. Tant le ciel était rempli de nuages entassés, sans une échappée nulle part. Devant cette muraille, les débris de cette muraille sans fin qui semblait d'une ville morte, la solitude devenait angoissante et à faire peur. Une étendue grise, clairsemée de cyprès, et toute peuplée comme de petits personnages caducs, encore debout, bien penchés ou gisants, qui étaient des stèles funéraires. Et elle demeurait couchée là depuis des années, la petite circassienne, jadis un peu confiante en le retour de son amie, là depuis des étés, des hivers, et là pour jamais, se désagrégeant seule dans le silence, seule durant les longues nuits de décembre, sous les sueurs de neige. À présent même, elle devait n'être plus rien. Il songeait avec terreur à ce qu'elle pourrait être bien encore, si près de lui, sous cette couche de terre. Oui, plus rien, sans doute, quelques os qui achevaient de s'émietter parmi les racines profondes, et cette sorte de boule plus résistante que tout, qui représente la tête, le coffret rond où avait habité son âme, ses chères pensées. Vraiment, les brisures de cette tombe augmentaient son attachement désolé et son remords, ne lui étaient plus tolérables. La laisser ainsi ne s'y résignait pas. Étant presque du pays, il savait quelles difficultés, quels dangers offrait l'entreprise. Un chrétien touché à la tombe d'une musulmane dans un saint cimetière. À quelle ruse de malfaiteur il faudrait recourir, malgré l'intention pieuse. Et il décida cependant que cela se ferait. Il resterait donc encore en Turquie tout le temps nécessaire pour réussir, même des mois au besoin, et ne repartirait qu'après, quand on aurait changé les pierres brisées, quand tout serait relevé et consolidé pour durer. Rentré à Péra le soir, il trouva chez lui Jean Renaud, un de ses amis de l'ambassade, un très jeune qui s'émerveillait ici de toutes choses et dont il avait fait son intime à cause de cette commune adoration pour l'Orient. Il trouva aussi tout un courrier de France sur sa table, et une enveloppe timbrée de Stamboul qu'il ouvrit d'abord. La lettre disait « Monsieur, vous rappelez-vous qu'une femme turque Vous écrivîtes une fois pour vous dire les émotions réveillées en son âme par la lecture de Maître G et solliciter quelques mots de réponse tracés de votre main. Eh bien, cette même Turque, devenue ambitieuse, veut aujourd'hui plus encore. Elle veut vous voir, elle veut connaître l'auteur aimé de ce livre, lu 100 fois et avec plus d'émotion toujours. Voulez-vous que nous nous rencontrions jeudi à 2h30 au Bosphore, côté d'Asie, entre Chibulki et Pacha Balché? Vous pourriez m'attendre au petit café qui est près de la mer, juste au fond de la baie. Je viendrai en tchatchaf sombre dans un talika, voiture turque de louage du modèle usité à la campagne, on dit aussi Mohanjir. Je quitterai ma voiture, vous me suivrez, mais vous attendrez que je vous parle la première. Vous connaissez mon pays, vous savez donc combien je risque. Je sais de mon côté que j'ai affaire en vous à un galant homme. Je me fie à votre discrétion. Mais peut-être avez-vous oublié Medjé. Et peut-être ses sœurs ne vous intéressent-elles plus. Si cependant vous désirez lire dans l'âme de la Medjé d'aujourd'hui, répondez-moi et à jeudi, Madame Zaïdé, poste restante, Galata. Il tendit en riant la lettre à son ami et passa aux suivantes. Emmenez-moi jeudi avec vous, supplia Jean Renaud dès qu'il eut fini de lire. « Je serai bien sage, » ajouta-t-il du ton d'un enfant. « Bien et discret, allez, je ne regarderai pas. »« Ah, vous vous figurez que je vais y aller, mon petit ami ?»« Oh, manquez cela, mais vous irez, voyons. »« Oh, je mets de la vie, oh, c'est quelque attrape. Elle doit être turque comme vous et moi, la dame. » S'il faisait le difficile, c'était bien un peu pour se laisser forcer la main par son jeune confident, car, au fond, tout en continuant de décacheter son courrier, il était plus préoccupé de la dame qu'il ne voulait le paraître. Si invraisemblable que fût le rendez-vous, il subissait la même attraction irraisonnée qui, 3 ans plus tôt, lors de la première lettre de cet inconnu, l'avait poussé à répondre. D'ailleurs, quelque chose de presque étrange, cet appel qu'on lui adressait au nom de Medjé, justement ce soir, alors qu'il rentrait à peine de sa visite au cimetière, l'âme si inquiétée de son souvenir. Chapitre 6. Le jeudi 14 avril, avant l'heure fixée, André Léry et Jean Renaud étaient venus prendre place devant le petit café qu'ils avaient reconnu sans peine au bord de la mer, rive d'Asie, à 1 heure de Constantinople, entre les 2 villages indiqués par la mystérieuse Zaïdé. C'était un des rares coins solitaires et sauvages du Bosphore, qui presque partout ailleurs est bordé de maisons et de palais. La dame avait su choisir. Là, une prairie déserte, quelques platanes de 300 ou 400 ans, de ces platanes de Turquie aux ramures de baobab, et tout près, dévalant de la colline jusque vers la tranquille petite plage, une pointe avancée de ces forêts d'Asie mineure qui ont gardé leurs brigands et leurs ours. Un lieu vraiment à souhait et pour rendez-vous clandestin. Ils étaient seuls devant la vieille petite masure en ruine et complètement isolés qu'était ce café, tenu par un humble bonhomme à barbe blanche. Les platanes alentour avaient à peine des feuilles dépliées. Mais la fraîche prairie était déjà si couverte de fleurs et le ciel si beau qu'on s'étonnait de ce vent glacé soufflant sans trêve, le presque éternel vent de la mer Noire qui gâte tous les printemps de Constantinople. Ici, côté de l'Asie, on en était un peu abrité, comme toujours. Mais en face, il faisait rage sur cette rive d'Europe que l'on apercevait là-bas au soleil, avec ses 1000 maisons les pieds dans l'eau. Ils attendaient l'heure dans cette solitude, en fumant des narguilés de pauvres que le vieux turc de Séan leur avait servi, presque étonné et méfiant de ces deux beaux messieurs à chapeau dans sa maisonnette pour bateliers ou bergers, à cette saison encore incertaine et par un vent pareil. « Oh, c'est tellement gentil à vous, disait Renaud, d'avoir accepté ma compagnie. Oh, ne vous emballez pas trop sur la reconnaissance, mon petit. Je vous ai amené, comprenez donc, c'est pour avoir à qui m'en prendre. Si elle ne vient pas, si ça tourne mal, si... Oh, alors il faudra que je m'applique à ce que ça tourne bien. » Il disait cela en faisant l'effaré, avec un de ces sourires tout jeunes qui révélaient en lui une gentille âme d'enfant. « Allez, tenez, justement là-bas, derrière vous, je parie que c'est elle qui s'amène. » André regarda derrière lui. Un talika, en effet, débouchait d'une voûte d'arbre, arrivait qu'à un qu'à par le sentier mauvais. Entre les rideaux que le vent remuait, on apercevait deux ou trois formes féminines qui étaient toutes noires, visage compris. Elles sont au moins une douzaine là-dedans, objecta André. Alors vous pensez, bon petit ami, qu'on arrive comme ça, en bande, pour un rendez-vous, une visite de corps? Cependant, le talika allait passer devant eux. Quand il fut tout prêt, une petite main gantée de blanc sortit des voiles sombres et fit un signe. Bon, c'était donc bien cela, et elles étaient trois. Trois, quelle étonnante aventure! Donc je vous laisse, dit André. Soyez discret, comme vous l'avez promis. Ne regardez pas. Et puis réglez nos dépenses à ce vieux bonhomme, ça vous revient. Il se mit donc à suivre de loin le talika, qui, dans le sentier toujours désert, s'arrêta bientôt à l'abri d'un groupe de platanes. Trois fantômes noirs, noirs de la tête aux pieds, sautèrent aussitôt sur l'herbe. C'étaient des fantômes légers, très sveltes, qui avaient des traînes de soie. Ils continuèrent de marcher, contre le vent froid qui soufflait avec violence, et leur faisait baisser le front. Mais ils allaient de plus en plus lentement, comme pour inviter le suiveur à les rejoindre. Il faut avoir vécu en Orient pour comprendre l'émotion étonnée d'André et toute la nouveauté de son amusement à s'avancer ainsi vers des Turcs voilés, alors qu'il s'était habitué depuis toujours à considérer cette classe de femmes comme absolument inapprochable. Était-ce réellement possible? Elle l'avait appelé, elle l'attendait, et on allait se parler. Quand elles l'entendirent tout près, elles se retournèrent. « Monsieur André Léry, n'est-ce pas ?» demanda l'une qui avait la voix infiniment douce, timide, fraîche et qui tremblait. Il salua pour toute réponse. Alors, des trois tchatchars noirs, il vit sortir trois petites mains gantées à plusieurs boutons, qu'on lui tendait et sur lesquels il s'inclina successivement. Elles avaient au moins double voile sur la figure. C'étaient trois énigmes en deuil, trois parcs impénétrables. « Excusez-nous, reprit la voix qui avait déjà parlé, si nous ne vous disons rien ou des bêtises, nous sommes mortes de peur. » Cela se devinait du reste. Oh, « Si vous saviez, dit la seconde voix, c'est qu'il a fallu de ruses pour être ici. Et en route, c'est qu'il a fallu semer de gens, de nègres, de négresses. Et ce cocher, dit la troisième, que nous ne connaissions pas, et qui va peut-être nous perdre. » Un silence. Le vent glacé s'engouffrait dans les soies noires. Il coupait les respirations. L'eau du Bosphore, qu'on apercevait entre les platanes, était blanche d'écume. Aux arbres, les quelques nouvelles feuilles à peine ouvertes s'arrachaient pour s'envoler. Sans les fleurettes du chemin qui se courbaient sous les robes traînantes, on se serait cru en hiver. Machinalement, Ils faisaient les 100 pas tous ensemble, comme des amis qui se promènent. Mais ce lieu écarté, ce mauvais temps, tout cela était un peu lugubre et plutôt de triste présage pour cette rencontre. Celle qui la première avait ouvert la bouche et qui semblait la meneuse du périlleux complot recommença de parler, de dire n'importe quelle chose pour rompre le silence embarrassant. Vous voyez, nous sommes venus trois.
En effet, je vois ça, répondit André, qui ne put s'empêcher de sourire.
Vous ne nous connaissez pas, et pourtant vous êtes notre ami depuis des années.
Nous vivons avec vos livres, ajouta la seconde.
Vous nous direz si elle est vraie, l'histoire de Medjé, demanda la troisième.
Et maintenant, voici qu'elles parlaient toutes à la fois, après le mutisme du début, comme des petites personnes pressées de faire quantité de questions dans une entrevue qui ne pouvait être que très courte. Leur aisance à s'exprimer en français surprenait André Léry autant que leur audace épeurée. Et le vent ayant presque soulevé les voiles d'une figure, il surprit un dessous de menton et le haut d'un cou, chose qui vieillissent le plus vite chez la femme, et qui là était adorablement jeune, sans l'apparence d'un pli. Elles parlaient toutes ensemble, et leur voix faisait comme de la musique. Il est vrai, ce vent et ses doubles voiles y ajoutaient une sourdine, mais le timbre par lui-même en était exquis. André, qui au premier abord s'était demandé s'il n'était pas mystifié par trois levantines, ne doutait plus maintenant d'avoir affaire à des Turcs pour de bon. La douceur de leur voix était un certificat d'origine à peu près certain, car au contraire, trois perrottes parlant ensemble, cela lui fait songer tout de suite au jardin d'acclimatation, côté des Cacatoès. Bon, il y a d'aimables exceptions, je me plais à le constater. Note de l'auteur.
« Tout à l'heure, dit celle qui est déjà intéressée le plus André, j'ai bien vu que vous avez ri quand je vous annonçais que nous étions venus trois. Mais aussi, vous ne m'avez pas laissé conclure. C'était pour en arriver à vous dire que trois aujourd'hui, trois une prochaine fois, si vous répondez encore à notre appel, toujours nous serons trois, inséparables comme ces perruches. Vous savez qui d'ailleurs ne sont que deux. » Et puis vous ne verrez point nos visages, jamais. Nous sommes trois petites ombres noires, et voilà tout. Des âmes, vous entendez bien, nous resterons pour vous des âmes, sans plus. Trois pauvres âmes en peine, qui ont besoin de votre amitié. Oh, inutile de nous distinguer les unes des autres. Mais enfin, pour voir, qui sait si vous devinerez laquelle de nous vous a écrit, celle qui se nomme Zaïdée, pour vous rappeler. Alors, dites un peu, ça nous amusera.
Mais vous-même, madame, répondit André sans paraître hésitant. Et c'était cela, et derrière les voiles, on les entendit s'étonner en exclamations turques.
Eh bien alors, dit Zaïdée, puisque nous voilà de vieilles connaissances, vous et moi, c'est mon rôle à présent de vous présenter mes sœurs. Quand ce sera fait, nous serons rentrés dans les limites de la correction la plus parfaite. Écoutez donc bien. Le second domino noir, là, le plus haut en taille, s'appelle Nechedil. Et il est méchant. Le troisième, qui marche en ce moment à l'écart, s'appelle Iqbal. Et il est sournois. Défiez-vous. Et à partir de 7 heures, veillez à ne pas nous embrouiller entre nous trois. Tous ces noms, il va sans dire, étaient d'emprunt, et André s'en doutait bien. Il n'y avait plus de Nechedil ou d'Iqbal que de Zaïdée. Le second Charchaf cachait le visage régulier, grave, au regard un peu visionnaire, de Zeneb, l'aidée des cousines de la mariée. Quant au troisième, dit sournois, si André avait pu soulever l'épais voile de deuil, il aurait rencontré là-dessous le petit nez en l'air et les grands yeux rieurs de Melek, la jeune turque aux cheveux roux, qui avait prétendu jadis que le poète devait être plutôt marqué. Il est vrai, une Melek bien changée depuis ce temps-là, par de précoces souffrances et des nuits passées dans les larmes, mais une Melek si foncièrement gaie de tempérament que même ses longues détresses n'avaient pu éteindre l'éclat de son rire. « Quelle idée pouvez-vous bien avoir de nous ?» demanda Zaïdée après le silence qui suivit les présentations. « Quelle sorte de femme imaginez-vous que nous sommes ? De quelle classe sociale ? De quel monde allons-nous dites ?»« Bon Dieu, je vous préciserai mieux ça plus tard. Je ne vous le cacherai pas cependant. » Je commence bien à me douter un peu que vous n'êtes pas des femmes de chambre.
Ah, et notre âge?
Bon, cela est sans importance, il est vrai, puisque nous ne voulons être que des femmes. Mais enfin, notre devoir est vraiment de vous faire tout de suite une confidence. Nous sommes des vieilles femmes, monsieur Léry, des très vieilles femmes.
Oh, j'avais parfaitement flairé ça, par exemple.
N'est-ce pas? N'est-ce pas? Intervint Iqbal Melek, d'un ton noyé de mélancolie, avec un chevrotement réussi dans la voix. N'est-ce pas? La vieillesse, hélas, est une chose qui se flaire, toujours comme vous dites, malgré les précautions pour dissimuler, mais préciser un peu. Des chiffres que nous voyons si vous êtes physionomiste.
À cause des impénétrables voiles, ce mot physionomiste était prononcé pourtant avec une nuance de drôlerie.
Des chiffres, mais ça ne va pas vous blesser, les chiffres que je dirais.
Oh, pas du tout. Nous avons tellement abdiqué, si vous saviez. Allez-y, monsieur Léry.
Eh bien, vous m'avez tout de suite représenté des aïeuls qui doivent flotter entre entre 18 et 24 ans.
Elle riait sous leur voile, pas très au regret d'avoir manqué leur effet de vieille, mais trop absolument jeune pour en être flattée. Dans la tourmente qui soufflait de plus en plus froide, sous le ciel balayé et clair, éparpillant des branchettes ou des feuilles, ils se promenaient maintenant comme de vieux amis. Malgré ce vent qui coupait des paroles, malgré le tapage de cette mer qui s'agitait tout près d'eux au bord du chemin, ils commençaient d'échanger leurs pensées vraies, ayant quitté vite ce ton moitié persifleur dont ils s'étaient servis pour marquer l'embarras du début. Ils marchaient lentement et l'œil au guet, réduit à se pencher ou à se tourner quand une rafale cinglait trop fort. André s'émerveillait de tout ce qu'elles étaient capables de comprendre et aussi de se sentir déjà presque en confiance avec ces inconnus. Et au milieu de ce mauvais temps et de cette solitude propice, il se croyait à peu près en sûreté quand, soudain, devant eux, au tournant de la route, là-bas, Croque-Mitaine leur apparut, sous la figure de deux soldats turcs en promenade, avec des badines à la main, comme les soldats de chez nous ont coutume d'en couper dans les palisses. C'était la plus dangereuse des rencontres, car ces braves garçons, venus pour la plupart du fond des campagnes d'Asie, où l'on ne transige pas sur les vieux principes, étaient capables de se porter aux violences extrêmes en présence d'une chose aussi criminelle à leurs yeux, des musulmanes avec un homme d'Occident. Ils s'arrêtèrent, les soldats cloués de stupeur, et puis, après quelques mots brusques échangés, ils repartirent à toutes jambes, évidemment pour avertir leurs camarades ou la police, ou peut-être ameuter les gens du prochain village. Les trois petites apparitions noires, terrifiées, sautèrent dans leur voiture qui repartit au galop à tout briser, tandis que Jean Renaud, qui avait de loin vu la scène, accourait pour prêter secours, et dès que le Talika, lancé à fond de train, fut hors de vue parmi les arbres, les deux amis se jetèrent dans un sentier de traverse qui menait vers la grande brousse. « Eh bien, comment sont-elles ? » demandait Jean Renaud un instant plus tard, quand l'alerte passée, il s'était repris à cheminer tranquillement sous bois. « Stupéfiante !» répondit André. « Stupéfiante dans quel sens ? Gentille ?»« Très ! Oh, et encore non, c'est un mot plus sérieux qui conviendrait, car ce sont des âmes, paraît-il, rien que des âmes. Oh, mon cher ami, j'ai pour la première fois de ma vie causé avec des âmes. »« Des âmes ? Mais enfin, sous quelle enveloppe ? Des femmes honnêtes ?» Oh, oui, pour honnête, tout ce qu'il y a de plus. Si vous aviez arrangé en imagination une belle aventure d'amour pour votre aîné, vous pouvez remiser ça, mon petit ami, jusqu'à une autre fois. André, dans son cœur, s'inquiétait de leur retour. Bien extravagant ce qu'elles avaient osé là, ces pauvres petites Turques, contraires à tous les usages de l'islam. Mais au fond, n'était-ce pas d'une pureté liliale? Conserver à trois, sans la plus légère équivoque, causer de choses d'âme avec un homme à qui l'on ne laisse même pas soupçonner son visage. Il eût donné beaucoup pour les savoir en sécurité, rentrer derrière leur grille de harem. Mais que tenter pour elles? Fuir? Se dérober comme il venait de le faire, et rien de plus. Toute intervention, directe ou détournée, eût assuré leur perte. Chapitre 7. Cette longue lettre fut mystérieusement apportée chez André Léry le lendemain soir. Hier, vous nous avez dit que vous ne connaissiez pas la femme turque de nos jours, et nous en doutions bien, car qui donc la connaîtrait quand elle-même s'ignore. D'ailleurs, quels sont les étrangers qui auraient pu pénétrer le mystère de son âme? Elle leur livrerait plus aisément celui de son visage. Quant aux femmes étrangères, quelques-unes, il est vrai, sont entrées chez nous, mais elles n'ont vu que nos salons, aujourd'hui à la mode d'Europe, le côté extérieur de notre vie. Eh bien, voulez-vous que nous vous aidions, vous, à nous déchiffrer, si le déchiffrage est possible. Nous savons à présent que l'épreuve est faite, que nous pouvons être amis, car c'était une épreuve. Nous voulions nous assurer qu'il y avait autre chose que du talent derrière vos phrases ciselées. Nous sommes-nous donc trompés en nous imaginant qu'au moment de vous éloigner de ces fantômes noirs en danger, quelque chose s'est ému en vous? Curiosité, déception, pitié peut-être, mais ce n'était pas l'indifférence laissée par une rencontre banale. Et puis surtout, vous avez bien senti, nous en sommes sûrs, que ces paquets sans forme et d'igrâce n'étaient point des femmes, ainsi que nous vous le disions vous-même, mais des âmes, une âme, celle de la musulmane nouvelle, dont l'intelligence s'est affranchie et qui souffre, mais en aimant la souffrance libératrice et qui est venue vers nous, son ami d'hier. Maintenant, pour devenir son ami de demain, il vous faut apprendre à voir autre chose en elle qu'un joli amusement de voyage, une jolie figure marquant une étape enchantée de votre vie d'artiste. Qu'elle ne soit pas plus maintenant pour vous l'enfant sur qui vous vous êtes penché, ni l'amante aisément heureuse par l'aumône de votre tendresse. Vous devrez, si vous tenez à ce qu'elle vous aime, recueillir les premières vibrations de son âme qui s'éveille enfin. Votre Medjé est au cimetière. Merci en son nom et au nom de toutes, pour les fleurs jetées par vous sur la tombe de la petite esclave. En ces jours de votre jeunesse, vous avez cueilli le bonheur sans effort, là où il était à portée de votre main. Mais la petite circassienne, que l'entraînement jeta dans vos bras, ne se retrouve plus, et le temps est venu où, pour la musulmane même, l'amour d'instinct et l'amour d'obéissance ont cédé la place à l'amour de choix. Et le temps aussi est venu pour vous de chercher de décrire dans l'amour autre chose que le côté pittoresque et sensuel. Essayez, par exemple, d'extérioriser aujourd'hui votre cœur jusqu'à lui en faire sentir l'amertume de cette souffrance suprême qui est la nôtre, ne pouvoir aimer qu'un rêve. Car toutes nous sommes condamnées à n'aimer que cela. On nous marie, vous savez de quelle manière. Et pourtant, ce semblant de ménage à l'européenne, installé depuis une génération dans nos demeures occidentalisées, là où régnaient jadis les divans de satin et les odalisques, représente déjà un progrès qui nous flatte, bien que ce soit encore très fragile. Un tel ménage, à toute heure menacé par le caprice d'un époux changeant, qui peut le briser ou bien y introduire une étrangère. Donc on nous marie sans notre aveu, comme des brebis ou des pouliches. Souvent, il est vrai, l'homme que le hasard ainsi nous procurait doux et bon, mais nous ne l'avons pas choisi. Nous nous attachons à lui avec le temps, mais cette affection n'est pas de l'amour. Alors des sentiments naissent en nous qui s'envolent et vont se poser parfois bien loin, à jamais ignorés de tous excepté de nous-mêmes. Nous aimons, mais nous aimons avec notre âme, une autre âme. Notre pensée s'attache à une autre pensée, notre cœur s'asservit à un autre cœur, et cet amour reste à l'état de rêve. Parce que nous sommes honnêtes et surtout parce qu'il nous est trop cher, ce rêve-là, parce que nous risquons de le perdre en essayant de le réaliser. Et cet amour reste innocent, comme notre promenade d'hier à Pachabakshijé, quand il ventait si fort. Voilà le secret de l'âme de la musulmane en Turquie, l'année 1322 de l'Hégire. Notre éducation actuelle a amené ce dédoublement de notre être. Plus extravagante que notre rencontre va vous sembler cette déclaration. Nous nous amusions à l'avance de ce qu'allait être votre surprise. D'abord, vous avez cru que l'on vous mystifiait. Ensuite, vous êtes venu, encore indécis, tenter de croire à une aventure, l'espérant peut-être. Vaguement, vous vous attendiez à trouver une zaïdée escortée d'esclaves complaisants, curieuse de voir de près un auteur célèbre et pas trop rétive à lever son voile. Et vous avez rencontré des âmes. Et ces âmes seront vos amis, si vous savez être le leur. Signé Zaïdé Nechedi Leïkbal.